Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Il est 19h01, bienvenue dans le lobby. Salut Colin.
Salut Victor. Alors si je résume, on s'est fait voler notre mois des fiertés à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale et pour l'instant, c'est tout l'été qu'on se fait voler puisqu'il fait en moyenne 12 degrés. Bref, amis hétéros, les personnes queer vont mal. Il serait temps de penser à prendre soin d'elles. Alors je dis amis hétéros, mais j'aimerais aussi m'adresser à notre propre communauté qui parfois ne brille pas par sa bienveillance. Et ce soir, j'aimerais revenir rapidement sur la finale de Drag Race France pendant laquelle la candidate Leona Winter a dû s'excuser. S'excuser de quoi, on sait pas tout à fait. Est-ce qu'on parle de sa tenue critiquée pour appropriation culturelle dans l'épisode précédent? Est-ce qu'on parle de la blackface réalisée des années auparavant qui a vite réémergé sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle de ses propos douteux, voire carrément racistes, disons-le, à l'égard de la drag queen Jiagun dans une autre émission de télévision? Tout ça est bien sûr largement condamnable et une rapide recherche aurait pu conduire la production de l'émission à tout simplement ne pas retenir Leona Winter dans le casting de la saison, surtout quand on sait à quel point le drag doit être un art aussi politique et qui puise ses racines dans l'antiracisme. En tout cas, après avoir subi un harcèlement assez rude sur les réseaux sociaux, Leona Winter, propulsée en finale par la production, a été sommée de s'excuser. « J'ai lu, je me suis éduquée », nous a-t-elle dit, après une prestation forte au cours de laquelle elle a révélé sa séropositivité. Tout ça dans un grand mélange quand même assez illisible. Alors bien sûr, on a d'excellentes raisons de ne pas être très fan de Leona Winter, puisque outre son CV assez rempli en matière de choses pour le moins problématiques dans les différentes émissions de télévision auxquelles elle a participé, on a été forcément très agacé par ses sorties hautaines, notamment le fameux « Je suis comme vous finalement ». Leona Winter en fait a endossé, peut-être avec entrain, on ne sait pas, le rôle de la méchante de la saison. Et l'année dernière, souvenez-vous, ce rôle incombait à Cookie Cunty, qui a subi elle aussi un harcèlement assez violent sur les réseaux sociaux. Sauf qu'à l'époque, tout le casting avait pris la parole pour la défendre et rappeler qu'après tout, c'est de la télévision, les queens aussi jouent un rôle. Cette année, personne pour défendre l'indéfendable Leona Winter, sommée donc de s'excuser publiquement dans une scène particulièrement gênante, pas sûr que qui que ce soit en sorte grandi. Bref, prenons soin des queers, prenons soin de nous. Bienvenue à tous.
Salut le lobby, ça va le lobby?
Assez de société qui ne respecte pas les frontières.
5 syllabes, visibilité.
S'il vous plaît, je suis lesbienne.
Les questions LGBT sont pas des questions à part.
C'est parce que je pense pas que ce soit qu'une affaire privée.
Je pense que la parole doit être surtout donnée aux personnes concernées.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
On va pas foutu, les hommes sont dans la rue.
Ça n'a pas de rapport, mais je suis un tout petit peu hétérophobe.
On est des bad bitches.
Enfin, pardon, je parle mal là, mais
je raisonne jamais en termes d'espoir. Je raisonne en termes de ce qu'on peut agir.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Et on est parti pour une heure de radio en direct, assurée par le puissant lobby LGBT+, qui compte cette semaine de nouveaux et nouvelles membres. Tout d'abord, une première, Lucie est avec nous. Salut. Pardon, je ne te voyais pas. Alors Lucie, team Lula Strega ou team Ruby on the Nail?
Lula Strega.
Une autre Lucie qu'on est aussi ravis d'accueillir. Bienvenue l'autre Lucie, Lucie numéro 2.
Salut.
Et alors toi, plutôt team Aphrodite Amour ou team Ruby on the Nail?
Aphrodite Amour.
Et puis on accueille également Lisa. Lisa, tu es plutôt team Norma Belle ou team Ruby on the Nail?
Ruby on the Nail.
Et parmi celles que vous avez déjà croisées cette année, on est ce soir avec Chat. Salut Chat.
Salut.
Team Le Philippe ou team Ruby on the Nail?
Mais Ruby forever.
Il y a aussi Lynn qui est avec nous ce soir. Salut Lynn.
Salut.
Et toi, tu es plutôt team Perseo ou team, allez au hasard, Ruby on the Nail?
Je pense bien Ruby.
Et enfin, Ayelen, tu es également avec nous ce soir. Tu es déjà passé par l'émission. Toi, plutôt team Magnetica ou team, je sais pas, je te propose par exemple Ruby on the Nail.
Ruby on the Nail aussi.
Bon, donc on est à 4 à 3 pour Ruby on the Nail. Je pense qu'on peut la considérer comme la grande gagnante de notre saison du lobby. Et ce soir, après un mois des fiertés tout à fait morose et un début d'été très pluvieux, on s'intéresse à la santé mentale des personnes queer. En seconde partie, nous serons rejoints et rejointes par Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, auteur de plusieurs livres et créateur du festival Pop MC, dont la prochaine édition se déroulera en octobre prochain au Grand Contrôle. Mais avant, place à la musique avec notre premier invité. Après 4 ans de silence, il vient de sortir un nouveau titre, Respire. Respirer, on en a bien besoin alors que l'actualité est toujours aussi épuisante émotionnellement. Et sa chanson en piano-voix est effectivement une bouffée d'oxygène. On a donc hâte d'écouter son prochain album. Mais en attendant, on est ravis de l'accueillir dans notre studio. Mélodie Loré est notre invitée.
Salut.
Bonsoir Mélodie Loré.
J'étais déjà gênant, juste en disant bonjour quoi.
Et donc nous allons démarrer cette interview avec toi Lisa.
Ok, très bien. Le lobby ?
Radio Campus Paris.
Bonsoir Mélodie Loret, c'est un plaisir de te recevoir ce soir. Et donc pour commencer, comment tu vas ?
Oula, c'est deep tout de suite. Non, en vrai, en vrai ça va. J'ai choisi de maintenant, à partir du moment où je réponds à cette question, je considère juste l'heure dans laquelle je suis. Sinon je m'en sors pas. Donc okay. Cette heure-là, ça va. Et toi ?
Moi ça va très bien, je suis un peu stressée mais ça va. Donc ça va aller, normalement.
Tout va bien.
Et donc, ton dernier EP, Le Moment Présent, date de 2022. Et tu reviens aujourd'hui avec ce single Respire. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant ce silence musical ?
Du coup, Le Moment Présent, c'est mon premier album. J'avais sorti deux EP avant. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai fait beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas combien de temps je me suis tue. Je ne crois pas 4 ans, peut-être un peu moins quand même.
C'est parce que tu nous as manqué, je pense.
Ouais, je pense que c'est ça. Ressenti 4 ans, mais réalité, je crois que c'est plutôt 1 ou 2 ans. Vous m'avez manqué aussi. Non, en vrai, bah, j'ai fait beaucoup d'autres trucs. Entre autres, j'ai tourné au théâtre dans Plutôt vomir que faillir de Rebecca Chaillon. Et il faut dire que ça a pris beaucoup de mon temps, de mon énergie. Et puis également, j'ai vraiment reconsidéré ma manière de faire de la musique, la manière de m'entourer aussi. Et du coup, j'étais entourée de beaucoup de gens, de gros labels, etc. Et j'ai choisi de continuer mon chemin seule. Ce qui fait que ça a pris plus de temps, évidemment, que quand on est entouré de plein de gens et de plein d'argent. Non, il n'y a jamais beaucoup d'argent, mais plus que zéro.
Ok, bah, ça fait le lien avec une autre de mes questions. Donc, dans ce nouveau single, donc, tu t'auto-produis. Donc, en fait, d'où vient ce choix de s'autoproduire ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et qu'est-ce que ça change aussi ?
Ce qui m'a motivé, c'est déjà des questions politiques. Je crois que je me sentais plus forcément... Enfin, en fait, j'ai pas du tout envie d'être seule dans l'idée. Hein. J'ai envie d'être entourée et j'aime ça, travailler collectivement. Donc, j'ai toujours envie de travailler, que ce soit avec un label, avec des éditeurs, éditrices. Mais là, j'ai fait le choix de quitter pas mal de personnes que j'ai toujours dans mon cœur. Mais simplement, je me suis dit aussi que en étant une personne queer, en étant une personne trans, y a beaucoup de questions qui se posent quand on est entouré de personnes. Et je crois que ça devenait trop lourd pour moi de me les poser. Et que j'avais besoin de faire ce chemin sans avoir à répondre à des questions auxquelles j'ai moi-même pas de réponse. Et du coup, j'ai fait ce choix pour m'émanciper d'une certaine manière. Mais pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Je crois vraiment que j'avais besoin de ça pour essayer de retourner à la source de ma créativité et de mon identité. Mais l'idée, c'est vraiment de plus tard m'entourer mieux. Là, je suis déjà entourée de deux merveilleuses personnes, Laure Belda et Mélissa Fulpin, qui m'aident dans le projet. Mais en tout cas, je crois que j'avais besoin de faire genre une espèce de retour à zéro parce que je savais plus trop où j'allais.
Est-ce que ça permet une forme de liberté supplémentaire ?
Une liberté en même temps pas du tout parce que comme je le disais, il y a l'aspect financier évidemment. Donc moi je crois que la liberté elle est c'est quelque chose que je ressens quand je ne suis pas totalement libre. Je crois que quand je suis trop libre, j'arrive pas à être libre du tout. Et du coup, j'ai eu du mal à composer aussi parce que ça a été beaucoup de solitude. Je pense que mon album, par exemple, je l'ai composé beaucoup seul dans ma chambre, mais aussi accompagné de diverses personnes, d'amis aussi. Et du coup, là, de recommencer en étant seul chez soi face à son clavier en se disant « Ah, j'ai le droit de tout, mais du coup, j'ai le droit de rien. » Et ça, c'est assez compliqué. Et puis, en fait, c'est aussi hyper effrayant de devoir faire des choix.
Mélodie Loret est avec nous ce soir pour nous présenter son nouveau titre Respire et justement, on va l'écouter tout de suite dans le lobby de Radio Campus Paris.
Je m'envisage comme un problème, alors je me cherche des solutions. Maman s'inquiète pour moi, au fond je crois qu'elle a raison. Je sais plus si je fais ça pour plaire ou pour soigner ma dépression. J'ai pris Prozac et Sertraline, elles ont niqué mes ambitions. J'ai tout pour être heureux, j'ai même des suçons dans le cou. Non, j'ai plus 15 ans, mais j'aime que l'amour laisse des bijoux. Mes sentiments sont riches, alors je les exhibe de partout. Eux ils montent leur Rolex, moi je monte quand élève me tatoue. Pourquoi j'ai tant de peine? Pourquoi le sel coule sur mes joues? Est-ce que je suis né cassé ou juste pas construit jusqu'au bout? Je suis là de la tête aux pieds, mais je sais pas tenir debout. Tachycardie, au bout de trois pas, autant ne pas marcher du tout. Ma vie est un schéma répétitif, je mets en scène mais je comprends rien. 24 ans qu'on répète la même pièce et que je trouve pas la fin. Change d'actrice tous les trois mois, j'attendais l'un déclic. Mais même quand je lui souffle le texte, elle dit jamais la bonne réplique. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps de penser. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps d'aimer. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps de penser. On me dit respire, 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 respire d'aimer. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps de penser. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps d'aimer. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps de penser. On me dit respire, 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 respire d'aimer. Je fais pas les choses à moitié, moi je les fais en doublé. Ça veut dire, pour saluer, on commence par se dévorer. Les meufs disent qu'elles aiment ça, car ça les sort de leur routine. Mais quand elles capent que je redescends pas, bah, elles veulent plus être ma copine. Du coup je les confonds toutes, et je leur écris les mêmes chansons. Se garer sur mon autoroute, je leur avais dit que c'était con. Ça va faire un accident, et moi je vais croupir dans ma prison. Le seul moyen de m'enfuir, c'est de partir en dissociation. Je crois que je serai jamais satisfait, être satisfait me satisfera pas. Je vis dans le passé pour remarcher mes premiers pas. Je veux m'occuper de mes pet shops, encore croire à l'horoscope, gueuler des slogans anti-clopes, me donner l'impression que j'ai des potes. 24 ans désillusionnés, mais c'est même pas stylé. On peut pas dire que j'ai une vieille âme, vu ma manière de m'attacher. Y'a rien de mature en moi, elle a menti, la maîtresse du CP. Avant je sautais des classes, maintenant je laisse la vie me sauter. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps de penser. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps d'aimer. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps de penser. On me dit respire, 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 respire d'aimer. On me dit respire, c'est pire, je respire, j'ai le temps de penser. On me dit respire.
Respire, c'était donc le dernier titre de Mélodie Loré, qui est notre invitée ce soir dans Le Lobby, une émission réalisée ce soir par Margot Page.
J'avais lu que tu disais avoir un rapport très spontané à l'écriture à partir d'émotions en général, et notamment que tu avais écrit la chanson 23h28 en 20 minutes. Et j'aurais voulu savoir quel a été un peu le processus de création de Respire, comment il t'est venu.
Globalement, c'est la même chose un peu pour toutes mes chansons. Et Respire, pareil. C'est un peu mystique hein, comme ça, mais en fait j'ai vraiment une phrase dans ma tête et d'un coup je vais au piano et il y a tout qui se déroule d'un coup, et j'arrive pas à, enfin si, ça m'arrive d'aller en studio et de vraiment penser une chanson et de me dire ok, ça va parler de ça et de ça et de ça, et là je sais pas quelle phrase j'avais. Je crois que j'avais la première, en fait je m'envisage comme un problème alors je me cherche des solutions, et j'étais très triste ce soir-là, je me souviens de ça, et très seule, et juste voilà, c'est sorti comme tel, et c'est souvent après avoir écrit la chanson que je me rends compte que j'en ai écrit une. C'est vraiment le moment où je me dis ah bah en fait il y a un truc qui existe, et après je l'envoie à quelqu'un et je me dis ah bon bah voilà, c'est fait. Mais pendant le moment où je le fais, je me rends pas compte que je le fais.
Ok. Ben, j'avais très envie de te poser des questions sur ton rapport aux mots et au langage. Et donc cette chanson qu'on vient d'entendre, elle semble traite un peu la notion de tourment ou de désillusion, liée notamment au fait de ne pas trouver sa place ou être hors de toute place. Et tu disais dans une interview que quand il y a des mots, tout va bien. Et je me demandais pour toi, quel était le pouvoir des mots sur ce que tu vivais ou ce que tu pouvais ressentir ?
Bah, j'ai toujours été très rassurée par les mots, parce qu'en effet, je pense que si un mot existe pour dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par ces choses. Et du coup, j'ai toujours cherché des mots, que ce soit pour me définir ou pour me donner des réponses à des questions sur moi-même. Et du coup, bah voilà, j'ai ce rapport-là de réassurance, par exemple dans les diagnostics, psy, où pour moi, c'est toujours rassurant de me dire « Ah ok, c'est bon, il y a un mot, donc ça veut dire que c'est à peu près encadré et que je vais pouvoir faire quelque chose de ça. » Et puis au-delà de ça, au niveau de la créativité, bah, moi, tout part des mots. Enfin, tout part vraiment des mots parce que je m'exprime pas seulement en chanson, je m'exprime aussi à l'écrit, je m'exprime au théâtre, sur scène. Et j'ai besoin de mots pour être inspirée. Et c'est les mots qui résonnent et ensuite le reste éclos.
Et dans cette musique, donc oui, il y a un sentiment de désorientation et d'être en décalage. Et est-ce que les mots, c'est quelque chose aussi qui te permet de mieux te comprendre ? Je pense que tu as un peu répondu en partie.
Mieux me comprendre, je ne sais pas, mais en tout cas de m'écrire, c'est déjà quelque chose parce que j'ai la sensation que moi, à la base, je suis vraiment un cliché d'un artiste déchu dans sa chambre. Enfin, vraiment, les premières chansons que j'ai écrites, j'avais 14 piges, je venais de me faire larguer et je ne savais plus quoi faire et j'étais en train de chialer et j'ai écrit un truc. Et j'ai aussi même des vieilles vidéos sur YouTube où je suis en train de chanter des trucs sur les maths parce que les maths me faisaient trop chier et que du coup, je pleure en disant les maths, c'est horrible, c'est horrible. Enfin bref, vraiment genre, juste c'est mon moyen d'expression de quelque chose. Donc ça m'aide parce que ça me canalise dans quelque chose et en même temps quand je vais sur scène et que je les interprète, je ne pense plus à être canalisée, je pense juste à interpréter et à partager et du coup ça aussi c'est rassurant de pouvoir dire quelque part où on m'entend.
Et bah, ça rejoint un peu ma prochaine question, mais c'était une question sur ce que tu voulais transmettre et produire chez les personnes qui vont écouter tes musiques.
Absolument rien. Enfin, je veux dire, absolument tout, mais je cherche pas du tout une émotion en particulier. C'est comme quand j'entends que, par exemple, respirer, c'est une respiration. Bah, je me dis, oh là là, pour moi, c'est pas du tout une respiration. C'est vraiment, genre, l'agonie. Mais du coup, ce qui est surtout intéressant, c'est que je vois qu'en fonction de la personne, bah, en fait, on reçoit pas la même chose. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est la pluralité de la réception. C'est de me dire que il y a des gens qui vont vraiment pas du tout comprendre ce que je raconte. En tout cas, ça va pas leur parler du tout. Et il y en a d'autres qui m'envoient des messages pour me dire merci. Et je me dis, bah en fait, si on me dit merci, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent aussi. Mais qu'importe lesquelles, en tout cas, mon objectif, c'est qu'il se passe quelque chose.
Ok. Et en dehors de la musique, donc, oui, le besoin d'écrire, il a toujours été présent. Et est-ce que depuis tout petit, c'est quelque chose qui existe pour toi et comment ça t'est venu ?
Bah, ça a toujours été là, en effet. J'ai un souvenir de moi au collège. Je voulais absolument être déléguée de classe tous les ans. C'était vraiment mon obsession. Et du coup, si je voulais faire ça, c'est justement parce qu'il fallait écrire un discours de déléguée pour se présenter. Et donc, je faisais des copies doubles de discours que j'écrivais genre vraiment trois jours avant, pendant que les autres venaient juste dire on va vous donner des bonbons à la récré. Et moi, j'avais vraiment tout un programme politique hyper... Enfin, même pas tant politique d'ailleurs. Mais juste, il fallait qu'il y ait vraiment beaucoup de mots, beaucoup de rimes. Et je kiffais trop toutes les matières où je pouvais parler, enfin parler non, écrire, parce que enfin, typiquement la philo c'était un gros problème pour moi parce que je faisais des rimes à tous les trucs et après je faisais synthèse, thèse de la synthèse, de la synthèse, de la thèse, enfin j'aime trop, voilà.
Mélodie Loré, vous êtes avec nous jusqu'à 20h. Vous écoutez toujours Le Lobby, le rendez-vous queer de Radio Campus Paris, et on accueille notre chroniqueuse de la soirée, c'est Cha. Et Cha, on me dit que tu n'aurais pas fait tes devoirs.
Oui, mais j'ai une bonne excuse. En fait, c'est la transidentité qui m'a empêchée d'écrire ma chronique, version queer de mon chien a mangé mon devoir de maths. J'ai le même rapport que toi avec les maths. Mais figure-toi, Victor, qu'en bon petit écolo, j'étais venue recycler un texte que j'ai écrit il y a longtemps et qui me plaisait bien, dans lequel je commence par chanter un faux générique d'une voix aiguë. Et après avoir lancé plusieurs cris dignes d'une mouette coincée dans une gouttière, et riez, mais c'est courant à Paris, figurez-vous. Bref, j'ai réussi à communiquer avec le chihuahua de la voisine, mais pas à atteindre la note. Hein. Et il a bien fallu me rendre à l'évidence, j'ai mué. Un détail sans conséquence, me direz-vous. Sauf que de fil en aiguille, une nuit de pleine lune et d'insomnie, j'ai commencé à faire la liste des choses qui avaient changé chez moi. Mon cycle hormonal, par exemple. Et ben, je suis complètement décalée. C'est l'anarchie. Et pas celle dont tout le monde, dans laquelle tout le monde finit heureux dans son petit cottage autogéré, entouré de bébés chèvres et de gens à poil. Non, non, là c'est le chaos. Et j'y avais pas vraiment fait attention avant, sauf que bah ça s'accumule. Après, il y a des bons côtés, hein, vraiment. Je prends du muscle comme si j'allais à la salle 5 fois par jour. Et bon, bah, j'ai la libido d'un une ado de 14 ans, quoi. Et vous allez me dire, bah, c'est normal d'avoir la voix qui mue, des menstrues toutes pétées et une seconde adolescence quand on prend de la thé, chacha. Oui, sauf que moi, j'en prends pas de la thé, en fait, testostérone pour les novices. Et il est là, le problème. Alors bon, ni une ni deux, moi. Hein. Comme un mec 6-7 après sa première expérience homo-érotique, eh ben, j'ai fait appel à un ami. J'ai donc fait le tour de mes potes et partenaires trans pour me plaindre. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Où cours-je ? Dans quelle étagère ? Bon, la panique, quoi. Et là, c'est l'illumination. Bah oui, mais c'est bien sûr Eureka et CQFD. Mais en fait, je transitionne par proxy. Si, si, c'est possible, mais restez avec moi. Vous connaissez certainement la légende urbaine comme quoi, à force de passer du temps ensemble, les personnes AFAB finissent par être sur le même cycle hormonal. Et bah voilà. Moi qui pensais avoir des hormones de bouche virile, en fait, j'ai des gonades de babtou fragile. Cela dit, avec les doses de cheval que prennent les meufs trans autour de moi, bah, je devrais pas être surpris en fait. Elles carburent avec des taux d'œstro et de progestérone, t'as peur. Mais c'est pas étonnant hein, que mes ovaires fassent des loopings. Alors oui, bon, je me plains. Mais finalement, j'ai peut-être touché le jackpot. Parce qu'en fait, on n'a rien compris, les gars. Il y a pas besoin d'ALD. Non, il suffit juste d'être polya et T40. Hein.
C'est donc ça, le fameux lobby trans.
Très bien, très juste, bien vu. Je dirais même plus qu'on peut parler de soft power trans. Et en même temps, comment y résister? Je veux dire, tout le monde a la peau si douce. Désolé, pas désolé, cis, hein, mais moi, je reste sur le trive, en fait. Vous faites pas le poids. Hein. Alors oui, je suis à deux doigts d'avoir de la barbe sur le joufflu, blague d'initié, si tu sais, tu sais. Mais je suis aussi tellement fière de marcher à côté de ces badasses du quotidien, alors qu'il y a encore des transphobes en liberté. On perd des adelfes tous les mois. On a perdu deux sœurs la semaine dernière dans un pays qui a clairement décidé qu'on ne méritait pas d'exister. Mais on est toujours là. Malgré le Sénat. Malgré les fachos. Malgré les boutons d'acné à 30 ans passés. Toujours là et toujours trans. Alors oui, j'ai peut-être pas pu écrire ma chronique. Mais je suis prêt à tourner le reboot. Chérie, j'ai cassé ton cycle hormonal. Et bordel, rien que pour ça, mais qu'est-ce que je nous aime.
Merci beaucoup, chat. Mélodie Lauré, ça vous fait réagir, cette notion de transidentité par proxy?
J'ai trouvé ça très malin. Je me suis vraiment dit que j'avais jamais pensé qu'il fallait que j'y pense.
Il est 19h22, pardon. Je suis un petit peu en retard ou en avance. Lisa, on continue cette interview avec Mélodie.
Alors, je vais continuer mes questions qui vont être un peu dans la lignée de cette chronique. Tu parlais dans tes interviews, mais aussi sur tes médias, du rapport au genre et à la transidentité. J'ai vu dans une interview de Têtu de 2019 que tu te définissais encore comme gender fluide avant de te définir comme non-binaire en disant que pour toi, la non-binarité était plus politique. Et est-ce que tu pourrais développer ce point ou l'expliquer?
Eh ben, c'était en 2019, voilà l'explication. en vrai, mon rapport à mon genre, il évolue absolument tous les jours. Je ne saurais pas te dire pourquoi en 2019 j'ai dit ça exactement, mais c'est vrai que genderfluid, ça me faisait beaucoup moins peur. Et c'est surtout ce que je sentais, vraiment. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un mouvement continuel dans mon genre et que ça passait de choses très binaires l'une à l'autre. Enfin vraiment, parfois j'étais vraiment, putain, mais je suis tellement une meuf. Parfois j'étais vraiment, putain, je suis tellement un mec. Mais c'était vraiment en fluctuation. Alors que... là, ça fait un moment que je me rends compte que je suis plus une meuf. Je dirais pas que je suis un mec non plus, mais je sais pas trop ce que je suis. Mais en tout cas, la non-binarité, c'est un terme qui me convient bien mieux maintenant. Je dirais même une personne transmasculine non-binaire parce que je tends vers ça. Mais en même temps, je sais pas, c'est une question continuelle. Et en fait, je crois qu'il faut aussi lever le tabou sur un truc, c'est que parfois on sait pas. Et que, en fait, moi, il y a un jour sur deux où je me dis que je suis en train de me gourer et de me tromper et de faire une grosse bêtise. Et je crois que j'ai aussi envie de m'écouter quand je me dis ça et que c'est pas obligé d'avoir une réponse toujours.
Et l'amour aussi, ça continue un peu dans le même sujet, mais l'amour, c'est central dans tes musiques. Et qui dit amour pour toi dit aussi homosexualité et plus spécifiquement lesbianisme. Est-ce que tu pourrais nous parler du rapport de l'identité lesbienne pour toi avec l'identité de genre?
Bah pareil, ça aussi c'est des choses qui bougent beaucoup en moi, qui sont toujours en mouvement. J'étais hyper attachée au mot lesbienne et puis en fait je le suis de moins en moins. J'ai l'impression que, en fait c'est curieux, mais j'ai l'impression que le mot qui prend le plus de place en moi, c'est celui qui fait que je vis le plus d'oppression. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que maintenant je vais me faire plus... on va plus remarquer ma transidentité que mon lesbianisme et que je me sens plus en danger à cause de ça et que du coup j'ai l'impression que mon focus il est sur autre chose. Je crois que l'orientation sexuelle, ouais, j'ai un peu mis la question de côté comme si c'était un truc qui appartenait à une époque révolue de genre c'est mes questions de quand j'ai 15 ans et en fait maintenant juste bah, je suis hyper amoureux d'une personne non binaire merveilleuse mais je me pose pas trop la question, je crois juste que je suis queer.
Ok. Et tout ça, ton identité non-binaire, quel impact elle a dans tes créations, dans tes musiques en général, dans ton art?
je crois pas qu'elle ait d'impact en particulier dans mon art quand je crée. Je crois juste qu'elle a un impact politique parce que du coup, sortir une chanson, par exemple, c'est con, mais là, j'ai sorti un clip, j'avais pas sorti de clip depuis 2 ans. Mon dernier clip, j'avais les cheveux longs et je crois même du rouge à lèvres. Et j'ai sorti un clip où j'ai les cheveux courts et un bébé moustache sans testostérone, mais avec de la proxytesto. Et du coup, il y a un truc où il y a une personne qui a commenté salut ma belle, ça me fait trop plaisir, tu m'as trop manqué. Et en fait, j'étais en mode genre, oula, trop bizarre. Mais je me suis dit, mais en fait, les gens, je les ai pas prévenus. Enfin, juste les choses se font. Et du coup, c'est ça qui change. C'est le rapport du public à moi. Et comment, moi, au début, même quand je savais que j'étais pas une meuf, je voulais pas que dans les médias, on me genre autrement qu'au féminin parce que j'avais trop peur que les gens comprennent rien ou que je sois bizarre. Et que, enfin, c'est hyper récent pour moi de venir publiquement et de parler de moi comme je suis.
Ok, et c'est quoi la proxy?
C'était une ref à chat.
Ah oh, pardon, désolée. Oui, oui, c'est bon.
Ce n'est pas un terme scientifique, à part si...
Moi, pour cette partie-là, j'avoue, j'avais fini sur mes questions.
Très bien.
Qui vont plutôt aller avec la dernière partie.
Mélodie Laurie, ici au Lobby, on attend impatiemment la sortie de votre prochain titre, mais il y a un autre événement pour lequel on trépigne tous ici ce soir, n'est-ce pas, Hélène?
Et oui, J-3 avant la cérémonie d'ouverture des JO, je suis intimement persuadée que tout le monde autour de cette table n'a qu'une hâte, piquer une petite tête dans la scène avec la même prestance qu'Oudéa Castéra il y a quelques jours. Bref, les JO et les tickets de métro à 4 euros, ça commence maintenant. Et il y en a d'autres qui ont aussi sauté sur l'occasion, et bien ce sont les musées. Petite liste non exhaustive des expositions du moment sur le thème des JO et du sport. Les JO, miroir des sociétés au mémorial de la Shoah. Olympisme, une histoire du monde au palais de la Porte Dorée. L'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique au Louvre. Autant vous dire que les JO ont la cote au musée. Mais alors forcément, toutes les expos ne se valent pas, et on a beau parler d'amour de l'art, on sent quand même bien le coup de marketing derrière, et que de toute façon, il fallait faire une expo sur les JO cette année. Vous savez, ces expositions, c'est un peu comme le pinkwashing des magasins de fast fashion pendant le mois des fiertés, ou les fleuristes qui affichent fièrement « Bonne fête de la femme » pour la journée internationale des droits des femmes. Bref, on ne s'y intéresse pas tout le reste de l'année, et tout d'un coup, on doit le faire, et quand on le fait, c'est un peu un gros fail. Et quel rapport avec les questions queer, me direz-vous? Eh bien justement, si l'on ne parle que de sport dans les expos muséales du moment, il y a quand même un point sur lequel les musées excellent en termes de gros fail: invisibiliser les personnes queer dans leurs salles d'exposition. Surprenant, me direz-vous, lorsque l'on connaît le guet d'art très peu affûté des commissaires d'exposition. Vous savez, quand on regarde un tableau, deux femmes nues dans un lit, bras dans les bras, et en lisant le cartel sous le tableau, le fameux « Elles étaient de très bonnes amies ». C'est un peu le « And they were roommates » version histoire de l'art. Mais ne soyons pas si pessimistes, les choses avancent, certes très doucement, et surtout en France, pour mener un travail de visibilisation des artistes et des représentations queer dans les musées. Figurez-vous que dès 1997, un musée queer ouvre ses portes dans le quartier de Soho, à New York, c'est le Leslie Lohman Museum of Gay and Lesbian Art. Si l'on peut citer plusieurs musées dédiés aux œuvres et à l'histoire d'artistes queer, comme le Queer Britain de Londres, là où les choses se compliquent, c'est quand il s'agit de parler de ces questions dans les expositions et les collections de grandes institutions muséales, où les mots militantisme, queer, intersectionnalité hérissent encore les directrices de musées au discours très lissé. Dernier exemple en date, celui de l'exposition rétrospective Shapes and Colors de l'artiste abstrait américain Ellsworth Kelly, visible en ce moment à la Fondation Louis Vuitton, où, comme le souligne justement l'historien Antoine Idier, dans absolument aucun cartel de l'exposition, il n'est question de l'homosexualité de l'artiste qui a pourtant nourri son travail et ses recherches plastiques sur l'abstraction. C'est le cas notamment de sa relation amoureuse avec un autre artiste, Robert Indiana, avec qui il partagera une partie de sa vie et qui tous deux s'influenceront mutuellement dans leur art. Cela pose évidemment plus largement question sur le besoin de représenter le musée même, de repenser le musée même en tant qu'institution. En effet, peut-on vraiment offrir d'autres discours et représentations, notamment issus de minorités, sans d'abord questionner le musée comme espace symbolique et institutionnel de pouvoir et de représentation dominante? Bref, petit message au commissaire d'exposition, exit les expos sur les JO, on veut voir des queers au musée.
Merci beaucoup à Hélène, vous écoutez Le Lobby, l'émission queer de Radio Campus Paris. On est toujours avec l'artiste Mélodie Laurie. Lisa.
Alors donc, dans cette dernière partie de discussion, j'aimerais plus spécifiquement parler donc, de ton single Respire. Donc dans cette chanson, le thème du trouble et de la santé mentale il semble très présent. Tu avais déjà parlé de neuroatypie, mais aussi sur ton compte Instagram de troubles borderline. Et j'aimerais savoir comment tout cela se concilie avec la création et donc avec ton métier aussi.
Eh ben, je pense que mes troubles font totalement partie de mon travail, aussi positivement que négativement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je puise mon inspiration à l'intérieur et qu'en même temps, c'est une chose qui m'empêche d'aller au bout de certaines choses. En même temps, cette intensité qui est un symptôme de plein d'autres choses, un peu plus dark, elle me permet de faire des trucs fous. Genre, là, pour Respire, je me suis dit que j'allais créer un festival et que j'allais faire une journée entière avec des créatrices, des humoristes, des chanteuses. Je me suis lancée dans un truc tout seul. Heureusement, j'ai eu l'aide de mes amis après. Mais du coup, ça fait aussi que quand j'y suis, je suis en crise d'angoisse et que je ne sais pas comment je vais m'en sortir et que je ne sais pas comment je vais faire et qu'en même temps, je le fais. Mais en tout cas, pour moi, c'est hyper important de... Avant, je parlais dans mes chansons, je chantais toutes ces choses-là, mais je ne les nommais pas. Et je crois que c'est de plus en plus important pour moi de nommer mon trouble, de nommer mes neuroatypies, mes neurodivergences. Parce que, justement, cette histoire de mots, cette histoire de dire, en fait, je suis là, j'existe, je fais ces choses-là, malgré tout, avec tout. Et du coup, j'ai espoir de donner aussi un peu de force à d'autres personnes.
Et donc oui, dans Respire, on a cette sensation d'une difficulté à être au monde et d'un sentiment de décalage. Et j'ai l'impression dans ce que j'ai lu que c'est quelque chose qui a aussi toujours été présent, notamment du fait que tu étais diagnostiquée enfant comme précoce ou dans ta relation, enfin ta manière d'appréhender les relations sociales en général. Et j'aimerais savoir si cette sensation un peu d'être en décalage par rapport aux autres, elle se traduit de manière différente maintenant à l'âge adulte et quel regard en fait tu peux avoir sur cette maturité qu'on t'attribuait enfant.
En effet, au début, moi, j'ai eu ce basique diagnostic HPI et il m'a suffi pendant longtemps parce que je me disais, au moins j'ai une explication, je ne suis pas fou, tout va bien. Et puis en fait, je me suis rendu compte plus tard que tout n'allait pas bien. Mais je crois que mon rapport à ça et aux autres, il évolue énormément. Et en fait, en réalité, je crois que je suis assez fière de moi, souvent. Parce que je vois que, par exemple, il y a 5 ans, je ne pouvais pas dormir chez quelqu'un. J'étais terrorisée à l'idée de dormir hors de chez moi. Et en fait, maintenant, je dors par terre chez des gens que je ne connais pas. Et ça va. évidemment, mon rapport, il évolue aussi en connaissance de moi-même. Parce que, typiquement, ce diagnostic borderline, moi, je l'ai eu il y a 1 an. Donc c'est quand même assez récent et finalement faire un travail thérapeutique au quotidien avec des personnes qui connaissent ce trouble et qui du coup ont une forme d'expertise sur mon propre vécu, c'est hyper rassurant et c'est nouveau pour moi.
Et donc tu as des outils en fait pour l'appréhender d'une meilleure façon pour toi-même?
J'ai des outils, j'ai un traitement aussi, parce que ça reste en fait une maladie mentale. Enfin, c'est mental, mais ça reste médical en fait. Donc du coup, oui, j'ai un traitement que je prends tous les jours, et puis j'ai une prise en charge et psychiatrique et en psychologie dialectique. Et du coup, ça, c'est des choses qui m'aident. Et en fait, mon métier, m'exprimer, que ça soit sur scène, en chanson, n'importe où, c'est aussi, je pense, 60% de ma guérison.
Ok. Et alors, j'aurais une question un peu plus analyse littéraire ou linéaire de ton refrain, donc où tu dis dans Respire, c'est pire, j'ai le temps de penser. Et est-ce que c'est comme si s'arrêter, c'était laisser place à des pensées qu'on ne peut pas gérer ou qui débordent? Et pourquoi vouloir fuir ces pensées? Et surtout, mais est-ce qu'on peut fuir ces pensées-là?
Moi j'ai besoin d'occuper mon cerveau très très fort pour ne pas penser trop. Penser trop n'est pas forcément dangereux, mais penser trop fait que j'ai vraiment conscience de moi. Et je crois que parfois j'ai besoin de pas avoir conscience de moi pour pouvoir exister pleinement. Alors du coup ça passe par des trucs un peu à la con, mais tu vois, quand je suis en train de ranger ma maison, je suis obligée de mettre un film français nul sur ma télé, mais de juste avoir un fond d'un truc qui me prend la tête. parce que sinon ça me fait peur. Ça me fait peur d'être confrontée à des choses et je n'ai pas toujours la capacité de l'être. Et du coup, j'essaye de choisir les moments où je me confronte à moi-même. Et de choisir d'avoir vraiment des moments dédiés à l'écoute de ce qui se passe en moi et par contre d'être toujours à l'écoute de mes émotions et de les valider au maximum. Si ma psy m'entendait, elle rirait bien, mais c'est une réalité, j'essaye.
Merci beaucoup Mélodie Lauré. Respire, c'est donc votre dernier titre à écouter sur toutes les plateformes de streaming, où vous pouvez d'ailleurs aussi écouter toutes nos émissions en podcast. Et à 19h36, on accueille Lynn. Tu vas nous parler de la passion de la manche coupée. Mais qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est aussi ce que je me suis demandé. Donc, j'ai traîné récemment sur Internet et je voyais cette expression revenir assez souvent. Alors, en fouillant un peu sur Wikipédia, j'ai trouvé un mythe passionnant qui raconte l'histoire d'amour entre l'empereur Han Haidi du 1er siècle avant Jésus-Christ et de son amant Dongxian en Chine. Et cette expression est aujourd'hui utilisée pour désigner l'amour entre hommes en Chine. Donc, le mythe en lui-même se déroule ainsi. Jeune empereur Han Haidi devient éperdument amoureux de l'un de ses officiers, Dongxian. Han Haidi lui offrira alors un magnifique château et un grand pouvoir politique et militaire. Un jour où les deux hommes dormaient ensemble, une urgence a réveillé l'empereur. Pour ne pas déranger Dongxian dans son sommeil, Han Haidi coupa sa manche sur laquelle était posée la tête de son amant, d'où l'expression « passion de la manche coupée ». Ce mythe rentre dans une longue histoire de tolérance de l'homosexualité en Chine, dont les premières références ont été datées au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Ce n'était qu'en 1740 que les premières lois contre l'homosexualité ont été passées en Chine. Cette histoire montre que l'acceptation des relations gays n'est pas récente et que c'est notre société moderne qui pousse ces rôles entre hommes et femmes dont on a juste commencé à en sortir. Notre travail aujourd'hui serait donc de nous extirper de ces boîtes que la société a fabriquées et de progresser vers l'acceptation de ces relations qui sont tout aussi légitimes que les relations hétérosexuelles.
Merci beaucoup Lynn. Dans un court instant, on accueille notre second invité, Jean-Victor Blanc, pour parler de la santé mentale des personnes queer. C'est juste après ça.
I would not.
C'était co-star de l'américaine Amarae et à 19h41, il est l'heure d'accueillir notre second invité, Jean-Victor Blanc. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Victor Blanc, bonsoir, bienvenue. Vous êtes psychiatre, addictologue, vous travaillez à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous vous définissez comme un activiste et vous êtes auteur de deux essais, Pop and Psy, publié en 2019, et Addict, publié en 2021. Vous portez un intérêt particulier à la communauté queer en lien avec ces sujets. Pourquoi et en quoi cette population est spécifiquement touchée par les addictions et les troubles psy ?
Alors, beaucoup de questions. Je vais essayer de faire une réponse synthétique. Plusieurs choses. Le fait d'appartenir à la communauté, évidemment. Mais ensuite, au niveau, on va dire, clinique, j'ai ouvert une consultation spécialisée dans la prise en charge du chemsex problématique il y a 5 ans. À un moment, on en parlait moins dans les médias, mais où c'était déjà un vrai sujet de santé mentale et santé sexuelle. Moi, je me suis intéressé, on va dire, sur le versant de la santé mentale, puisqu'on le sait, c'est une pratique, donc l'addiction aux nouveaux produits de synthèse utilisés dans un contexte sexuel qui peut être très addictive et souvent associée à des facteurs de vulnérabilité psychique, d'où l'intérêt d'avoir des consultations spécialisées, sachant que c'est une pratique qui concerne aujourd'hui quasi exclusivement les hommes homosexuels. Donc en fait, c'est à travers ça que je me suis intéressé plus spécifiquement dans mon métier aux questions, on va dire, queer, en soignant finalement des personnes qui partagent en commun le fait d'avoir cette orientation sexuelle et finalement d'autres choses aussi, mais finalement pas tant d'autres choses, dans le sens où c'est des profils très variés qui ont parfois en commun uniquement le fait d'être des hommes qui aiment des hommes.
Merci. Jean-Victor Blanc, vous êtes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On vous retrouve dans quelques instants, puisque à 19h42, il est temps de retrouver Lucie. Et Lucie, je crois que tu as une grande nouvelle à nous annoncer.
Eh oui, Victor, j'ai une super nouvelle. J'ai réussi à arrêter de fumer.
Bravo.
Il y a 8 ans. J'ai fumé de mes 13 à mes 20 ans, car c'est hyper cool d'avoir une cigarette à la bouche avant d'avoir ton brevet des collèges dans les mains. Fume la vie avant que la vie te fume. Et après 7 ans de tabagisme actif et passif, un tabagisme versatile donc, j'ai réussi à arrêter. Victor, est-ce que tu veux savoir mon secret ?
Mais avec grand plaisir.
Remplacé par une autre addiction ! Dis-moi, Victor, est-ce que tu trouves ça cool d'avoir une addiction au travail ?
Je trouve ça vraiment très très bien.
Quand t'es de gauche ?
Moins.
Et au chômage ?
Difficile.
Ouais, j'ai commencé à être addict au travail pendant mes études, parce que je suis dans un milieu où c'est hyper cool de beaucoup travailler. Et là, tout le monde se dit sûrement que j'ai fait genre médecine ou une école d'ingé. J'ai dit addiction au travail, j'ai pas dit alcoolisme, calmez-vous. Non, moi j'ai fait une école pour faire du dessin animé. Du coup, on est assez loin de construire des ponts ou sauver des vies, mais il y a quand même une culture de dépasser ses heures, essayer d'être toujours le meilleur, une culture de shonen donc. Ou de droite, au choix. Mais, ouais. Oui, on est dans une hallucination collective où on essaie de travailler plus pour gagner plus de street cred auprès de Miyazaki. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode girl boss, tu vois. Je voulais devenir la version girl boss de Miyazaki, clairement. J'étais tellement dans cette mentalité que le matin, pour aller à l'école, j'écoutais You Better Work, Bitch de Britney Spears. Le midi, je bouffais de la merde devant mon écran. Je travaillais beaucoup trop tard, je me réveillais à nouveau beaucoup trop tôt, stressée, j'étais claquée. Et puis je repartais bosser en écoutant du Britney. Bon, du coup, moi, le hot body, en fait, je l'avais déjà. Du coup, petit message à Britney Spears. Britney, si tu nous entends. Où est ma Bugatti ? Où est ma Maserati, Britney ? Non, parce que moi, ce que j'ai eu, c'est un burn-out, en fait. You want a insomnie ? You want a dépression ? You want a crise d'angoisse en jouant aux Sims ? You better work, bitch. Mais attendez, ça veut dire que Britney m'a menti ? En fait, c'est grave pas cool de bosser tout le temps et de dépasser ses limites. Mais qui aurait cru ? C'est là que je me suis aperçue que j'ai pas besoin d'essayer tout le temps d'être la meilleure pour avoir le droit d'exister. Que c'est pas parce que ça, c'est ce que le capitalisme essaie de me faire croire. et que m'épuiser et me surstresser au travail, ça abîmait ma santé physique et mentale. Quand t'es une personne queer, une personne sexisée, et même toutes les personnes qui subissent des discriminations, c'est politique d'écouter ses limites, d'écouter son corps, de lui donner de l'amour et d'accepter de ralentir. C'est pour ça que quand ma conseillère Pôle emploi m'a proposé du travail, je lui ai dit non merci, j'essaie d'arrêter.
Merci beaucoup Lucie. Jean-Victor Blanc, c'est une addiction pour laquelle on consulte chez vous, l'addiction au travail.
L'addiction ou... à Britney. L'addiction au travail, pas tellement, parce qu'en fait, c'est pas une réelle addiction. On va un peu mésuser ce terme-là en parlant d'addiction. Pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est quelque chose qui allume le circuit de la récompense comme peut le faire une certaine drogue. Probablement aussi pour des raisons sociales, on a une tolérance pour les gens qui vont travailler beaucoup. Ceci dit, et c'est important de le rappeler, et c'est drôle parce que dans ma conférence justement sur le sujet, j'utilise les paroles de Britney Spears, on sait qu'aujourd'hui, travailler, c'est plutôt associé à une meilleure santé mentale et que derrière finalement, les blagues autour de l'addiction au travail, on oublie de parler qu'en fait, c'est surtout les personnes en dehors des situations d'emploi qui ont une moins bonne santé mentale statistiquement. Alors après, à l'intérieur, il y a des personnes qui vont avoir un travail précaire avec des horaires irréguliers, un travail de nuit dont on sait qu'il peut être plutôt délétère. Mais globalement, travailler, c'est plutôt associé à une bonne santé mentale parce qu'aujourd'hui, c'est probablement un sens qu'on a aussi dans notre existence pour plein de raisons et qu'on peut tout à fait questionner. Mais dans le monde dans lequel on vit, effectivement, si on veut une Bugatti et être aussi en forme que Britney dans ce clip, bah, ça passe beaucoup par le travail.
Vous avez publié Addict aux éditions Arkay en 2021 avec le sous-titre « Comprendre les nouvelles addictions et s'en libérer ». Qu'est-ce qu'on retrouve derrière ce terme de nouvelles addictions? Comment est-ce que vous les définiriez?
En fait, au-delà des nouvelles addictions, on sait qu'aujourd'hui, il y a moins cet attachement à un produit, mais plutôt à un usage. Et donc, c'est pour ça que dans le livre, par exemple, je parle du cannabis avec se détendre, je parle de la cocaïne avec le travail, je parle de l'alcool avec la fête. Le chemsex en est également un signe. En fait, on voit que les gens sont moins, vont être moins orientés vers une substance, mais plutôt une recherche de défonce, de dopage, de détente. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'en fait, ça fait que à beaucoup d'endroits les personnes vont essayer de chercher dans les substances une sorte d'automédication et en fait ça va plutôt aggraver des situations. Donc moi je suis pas pour la prohibition, on sait que ça marche pas très bien, mais en revanche on sait également que derrière la consommation il peut y avoir beaucoup de souffrance et notamment pour les personnes les plus vulnérables et notamment les personnes queer.
Dans le livre, d'ailleurs, vous citez plusieurs exemples de personnes que vous recevez en consultation. Aujourd'hui, chez vous, à l'hôpital Saint-Antoine, comment est-ce que les personnes sont prises en charge quand elles arrivent en consultation?
Alors moi, c'est une consultation qui est spécialisée sur le chemsex, donc c'est vrai que c'est soit des médecins qui m'adressent des patients, soit un peu par le bouche à oreille, sachant que malheureusement, cette consultation, elle est complètement saturée, comme à peu près toutes les consultations spécialisées sur le sujet. Donc c'est que je reçois moins de nouveaux patients, notamment parce que c'est des prises en charge qui sont en général assez longues, c'est pas en une fois ou en deux fois que vraiment on avance. En revanche, sur un an, deux ans, il y a vraiment des évolutions qui se font et qui sont très positives. Je sais quelques exemples effectivement dans mon livre. Le fait d'être une consultation spécialisée sur le chemsex, ça fait en fait que les personnes arrivent sans avoir la crainte d'être jugées, que ce soit par rapport à leur orientation sexuelle, que ce soit par rapport aux pratiques liées au chemsex. Donc c'est pas tant qu'il y a une solution miraculeuse qu'on appliquerait que pour le chemsex, parce que finalement derrière le chemsex, il va y avoir plein de choses. Il peut y avoir de la dépression, il peut y avoir de l'addiction, il peut y avoir des vulnérabilités. Donc, il n'y a pas une formule toute faite. En revanche, on sait que malheureusement, et c'est toute la question des soins communautaires, des personnes qui vont aller dans une consultation à l'aveugle peuvent aujourd'hui être jugées pour leur orientation sexuelle ou face à la méconnaissance. C'est vrai que moi, j'ai des patients qui arrivent à l'hôpital et qui me disent « voilà, j'ai essayé plusieurs centres d'addictologie classiques ». On m'a dit on s'occupe pas de ça, on fait pas ça chez nous, avec voilà toute l'ambivalence que peut recouvrir le ça quoi.
Alors justement dans Addict vous écrivez je constate au quotidien que c'est le mal-être qui conduit à la recherche de paradis artificiels et que ceux qui en deviennent captifs sont souvent à l'intersection de discriminations de genre, ethnique ou économique. Donc ces discriminations, elles infusent partout dans la société, y compris au cœur de la pratique de la médecine. Et on sait qu'il peut y avoir un frein à aller consulter et à entamer un parcours de soins, surtout quand le discours médical peut être stigmatisant, moraliste ou discriminatoire. Comment est-ce que vous travaillez avec cette donnée spécifique et est-ce que votre travail d'activiste concerne aussi un lien, une forme de pédagogie avec vos collègues médecins, enfin vos confrères?
Bien sûr, bah, honnêtement, c'est des choses qui n'étaient pas du tout abordées pendant mes études. Hein. Bon, j'ai 36, donc je n'ai pas étudié il y a 1000 ans, mais je ne sors pas non plus de la fac. C'est des sujets qui n'étaient pas du tout abordés. C'est vrai que moi, après, c'est mon cheminement aussi personnel qui a fait que je me suis intéressé à ces questions et que tant avec Popepsy qu'avec cette consultation spécialisée sur le chemsex, finalement, j'ai retrouvé cet intérêt pour l'intersectionnalité. L'idée étant à la fois de donner une visibilité et ce qui est pour le coup génial, je trouve, en tant que psychiatre et en tant que professionnel de santé, c'est qu'on va s'appuyer sur des données scientifiques, donc c'est de la recherche. C'est des faits qui sont finalement assez indiscutables, même si on peut toujours trouver des personnes, mais je veux dire, globalement, c'est des études scientifiques qui montrent que, par exemple, être homo ou lesbienne aujourd'hui, c'est exposé à 2 à 3 fois plus de risques de développer une dépression ou de l'addiction, par exemple. Ça, c'est des chiffres, des études qui ont maintenant plus de 10-20 ans, qui ont été répliquées sur des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est pour le coup un fait et donc quelque chose qu'ensuite on peut discuter avec. Évidemment, j'ai un abord, on va dire, plutôt progressiste sur la question, mais qui sont un peu irrévocables là où souvent, quand on amène ces sujets-là à la société de manière politique ou militante, qui est aussi quelque chose d'évidemment totalement indispensable, mais qui n'est pas forcément la posture que je vais avoir parce que j'ai une posture avant tout de médecin, et bien finalement, ça permet d'ouvrir le débat et d'aller finalement sur des sujets qui auparavant et d'autres manières sont un peu considérés comme polémiques. C'est vrai que dans le festival, ça va être aussi le festival Popepsy, ça va être aussi quelque chose qu'on va mettre en avant avec des tables rondes sur la santé mentale des personnes queer, sur le coût mental du racisme, pour vraiment faire de la pédagogie et aussi quelque part essayer d'un peu d'incarner ça, parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, quand je me présente et que je dis voilà, je suis psychiatre, c'est vrai que je correspond pas forcément aux stéréotypes de la profession. On me dit ah, vous êtes jeune. Vous ressemblez pas au psychiatre de la télé, vieux avec des lunettes et clairement sous-entendu probablement blanc d'un certain âge avec une barbe, un air austère et évidemment hétérosexuel. Donc on voit bien qu'il y a aussi probablement une question d'image qui évolue, mais pour le coup être tout à fait sincère, c'est pas non plus, enfin le milieu de la psychiatrie et de la médecine notamment, parce qu'il tend à se rajeunir et se féminiser, est pas si réac que ce qu'on peut imaginer, franchement. Que ce soit avec Popepsy ou avec ma consultation spécialisée, il y a parfois une méconnaissance, mais rare, enfin, en tout cas c'est pas quelque chose d'adressé. On m'a jamais mis de bâton dans les roues, par exemple à Saint-Antoine, pour faire cette consultation.
Du coup, vous parlez du festival, on va y revenir plus tard, parce que justement, il y a beaucoup à faire dans les institutions, mais aussi auprès du grand public. On a vu ces dernières années la diffusion de témoignages, d'icônes de la pop culture qui font émerger un discours de tolérance qui valorise les parcours de sobriété et de soins. La saison 3 de Drag Race France vient de s'achever avec le couronnement de Le Philippe, notre nouvelle reine, qui a remporté la compétition avec panache et nonchalance. Dans l'épisode 5, elle a évoqué ses difficultés vis-à-vis de ses addictions et on va l'écouter.
C'est que je parle beaucoup d'alcool et tout, mais c'est fou comment j'avais pas réalisé à quel point c'était devenu une béquille pour moi pendant longtemps. Puis la drogue aussi, forcément. Tu commences à faire des gigs toutes les semaines, puis plusieurs fois par semaine, puis tu te rends compte en fait que... Ah ouais, waouh, en fait, je viens de taper 4 fois dans la semaine, je viens d'être torché 5 fois dans la semaine. Déjà, dans notre communauté, je pense qu'on a un rapport avec la fête qui est excessif. Mm-hmm. Je pense qu'on a peur collectivement. En tout cas, moi, je sais pas, là, je parle pour notre communauté, mais je sais comment moi, je le ressens. J'ai toujours peur que la fête se finisse. J'ai pas envie, parce que du coup, je suis dans le monde réel, du coup, et j'ai pas envie d'être dans ce monde-là. L'alcool, c'est aussi un exutoire. C'est génial, hein. On rit beaucoup et on s'éclate et on danse bien. Il y a aussi beaucoup de perte de temps dans ça. C'est des moments tellement éphémères qui ne construisent rien, finalement.
Alors, est-ce que vous aviez vu cet épisode? Comment ça vous fait réagir, du coup?
C'était très touchant qu'il l'amène de cette manière-là. En plus, c'était le Philippe, je l'aime bien. Enfin, ça fait plusieurs années que, on va dire, je suis sa carrière, enfin, comme beaucoup de personnes. Mais je veux dire, c'était très touchant de le voir en parler à visage découvert et de finalement enfin lever un peu ce tabou-là. Parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, hein, évidemment, quand on parle d'addiction. notamment dans la communauté queer, de pas stigmatiser et de pas non plus avoir un discours qui va être hygiéniste, de dire l'alcool c'est pas bon du tout, il faut rien boire, il faut rien consommer. Et en même temps, c'est un peu l'éléphant quand même dans la pièce, on sait que sous couvert de fêtes, sous couvert de chemsex, sous couvert aussi de stéréotypes dont on a été abreuvé, de finalement être queer et être un peu dans le coup, bah, c'est systématiquement forcément avoir une vie qui va être centrée autour des substances. Encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dessus, et je ne pense pas qu'une société sans consommation et sans substances soit possible, hein. Pour le coup, ça, c'est de l'anthropologie. Néanmoins, pendant longtemps, en fait, sous couvert de liberté, bah, en fait, on a laissé quand même plein de gens aller hyper mal et se soigner, s'abîmer dans l'alcool et dans la drogue, avec probablement une permissivité qui a été permise notamment par de la LGBT-phobie, parce qu'au final c'était pas si grave, et que c'est pas très joyeux de quoi ce que je vous dis, mais un jeune qui une jeune de 18-20 ans qui va développer une addiction très jeune dans sa vie, qui peut commencer de manière festive mais qui ensuite rapidement va prendre toute la place dans sa vie, bah, en fait il va pas pouvoir exprimer son potentiel, il va pas pouvoir construire une vie, il va pas pouvoir avoir finalement un support, une communauté, etc. Et finalement ça va se retrouver contre lui, et ça c'est des parcours de vie que malheureusement on continue de voir aujourd'hui en consultation.
Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux et notamment Instagram pour faire de la pédagogie, de la vulgarisation, de la sensibilisation. Pourquoi est-ce que ces formats et ces modes d'expression vous intéressent, et à quel public est-ce que vous les destinez ?
Bah, c'est toujours une question, hein, parce que c'est sûr que les réseaux sociaux, on le sait, peuvent à certains moments accentuer un certain sentiment d'isolement. Néanmoins, aujourd'hui, et avec Culture Pop et Psy, le compte Instagram et puis mon compte personnel, l'idée étant de parler au plus grand nombre, et notamment aux personnes jeunes, puisqu'on sait qu'elles sont concernées par la santé mentale. Et donc, en fait, on peut pas aujourd'hui s'adresser à cette cible-là sans être sur les réseaux sociaux. L'idée étant aussi de mêler un côté de divertissement à vraiment un fond scientifique, et d'augmenter aussi la qualité, parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de santé mentale sur les réseaux, mais on en parle globalement plutôt mal, avec beaucoup de contre-vérités, beaucoup de postures qui vont être extrêmement clivantes, etc. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire que c'est probablement un espace aujourd'hui où des communautés se constituent et où on peut aussi trouver de l'information, du divertissement et aussi une certaine visibilité, puisqu'on fait attention à ce que justement mettre en valeur, et pour le coup c'est pas trop difficile, parce que du coup on utilise beaucoup les personnes qu'on aime ou dont j'ai pu être fan ou que je peux apprécier particulièrement, et qui sont finalement des visages de la diversité.
Alors vous êtes à l'initiative d'un festival qui s'appelle Pop MC. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment il est né et à quoi il ressemble, et dans la foulée, nous dire à quoi on peut s'attendre pour l'édition de cette année, et de manière assez rapide si
d'accord
possible.
Et bien là, cette année, ce sera la troisième édition, c'est du 11 au 13 octobre. On va parler de plein de sujets, notamment santé mentale et LGBT-phobie. On va parler de la question de l'environnement et de la santé mentale, les questions de migration également, avec des artistes, avec des scientifiques, avec des personnalités publiques comme Judith Godrej, comme Farida Kelfa, ou encore Marie-Rose Moreau, qui est une professeure de psychiatrie. Et tout ça, ce sera du 11 au 13 octobre au Grand Contrôle à Paris. Et vous pouvez vous inscrire sur la newsletter ou sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos.
Merci beaucoup Jean-Victor Blanc. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci à vous Mélodie Loré. On continue d'écouter, de te faire écouter Respire, et on attend la suite avec impatience. À la réalisation ce soir, c'était Margot Page. Colin a préparé cette émission, et au micro il y avait Ayelen, Cha, Lisa, Lucie et Lucie. À partir de la semaine prochaine, retrouvez Le Lobby en rediffusion chaque mardi à 19h. Nous on se retrouve à la rentrée. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.